Alors ce soir, nous allons partager sur les dangers qui menacent un leader dans son parcours. Les dangers qui menacent un leader dans son parcours. Alléluia. En d'autres termes, les dangers que doit faire face un leader s'il veut marcher sur le chemin du maître. Alléluia. Rapidement, je voudrais dire une première chose. La première chose que je voulais dire, c'est que les dons peuvent tuer. Alléluia. Les dons peuvent tuer. Les dons peuvent tuer. Alléluia. C'est la raison pour laquelle un véritable leader de Jésus ne doit pas se focaliser sur ses dons. Il doit plus se focaliser sur son caractère. C'est le caractère qui amplifie la qualité du don. C'est le caractère qui amplifie la qualité du caractère, la qualité du don du leader. Alléluia. Amen. Et donc, il est important de comprendre que le caractère et les compétences, les dons ou les talents sont essentiels pour les leaders. Les deux choses doivent marcher ensemble. Le caractère et les compétences, le caractère et les dons, le caractère et les talents. Et lorsque nous regardons David, qui est un leader par excellence dans les Écritures, qui était le roi d'Israël, nous regardons dans le livre des Psaumes, chapitre 78, le verset 72, nous remarquons que David va associer le caractère et la compétence. Alléluia. Le caractère et la compétence. Au verset 72, il dit, « Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. » Alléluia. « Et les conduisit avec les mains intelligentes. » Il les a dirigés avec un cœur intègre. Ça, c'est le caractère. Rappelez-vous, parmi les caractères essentiels du leadership, nous avons parlé de l'intégrité, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'intégrité. Et la Bible nous dit ici qu'il les a conduits avec un cœur intègre, un cœur vrai, un cœur authentique. Alléluia! Et la Bible dit qu'il les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. L'habileté ici parle de la compétence. L'habileté ici parle du don. L'habileté ici parle du talent. Alléluia. Et donc vous voyez que pour que David puisse réussir, il a associé le caractère et les compétences. Est-ce quelqu'un avec moi? Notez que lorsque Dieu va publier le CV pour chercher un deuxième roi, il va chercher l'homme selon son cœur. Est-ce quelqu'un avec moi? L'homme selon son cœur. Parce que dans le CV de Dieu, le caractère est prioritaire sur le don. Le caractère est prioritaire sur la compétence. Le caractère est prioritaire sur le talent. Est-ce que quelqu'un est là? Bien-aimé. Alors quand des personnes pensent à développer des leaders, ils pensent souvent aux aptitudes nécessaires qui ont besoin d'être acquises. Souvent la formation des leaders dégénère jusqu'à devenir uniquement une formation axée sur les dons. Axée sur les dons. Vous voyez? Même s'ils sont importants, il y a quatre conséquences dangereuses si l'on développe uniquement les dons. Amen. Uniquement les dons, les aptitudes ou les compétences ou les talents. Alléluia. Je vais nous donner quatre éléments. Nous sommes déjà dans les dangers. Dans les dangers de... Le thème c'est quoi? Qui menace un leader dans sa marche. Alléluia. Dans sa marche. Et bien aimé. Alors, parmi les conséquences dangereuses qui menace un leader s'il ne développe que ses compétences, premièrement, nous avons ceci, les compétences dépassent le caractère. Amen. Les compétences ou les dons dépassent le caractère. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Les dons ou les compétences dépassent le caractère. Alors, quand la formation des leaders est séparée de la formation des disciples, les aptitudes, les compétences peuvent grandir tandis que le cœur se refroidit. Alléluia. Amen. Et si on est ensemble? Alors, quand je dis les compétences dépassent le caractère, ça veut tout simplement dire que lorsque on amplifie plus la formation sur les compétences, sur le don, plus que sur le caractère, le cœur du leader se refroidit. Le cœur du leader se refroidit. Les leaders de plus en plus compétents auront probablement de plus en plus de responsabilités. Alors, si les responsabilités grandissantes ne sont pas accompagnées d'une croissance au niveau du caractère, tôt ou tard, le leader explosera. Alléluia. Tôt ou tard, le leader explosera. Ça, c'est la première conséquence dangereuse si l'on développe uniquement les compétences. Deuxième conséquence dangereuse, le feu des projecteurs surpasse la sanctification. Le feu des projecteurs surpasse la sanctification. Vous voyez, bien-aimés, quand des leaders deviennent compétents, leur talent, leur compétence ont tendance à attirer souvent l'attention. Alléluia. Le don affiché les place sous le feu des projecteurs. Et quand le feu des projecteurs surpasse la sanctification, les leaders sont voués à la chute. Alléluia. Vous voyez? Quand un leader développe plus ses talents, développe plus ses dons, la lumière frappe sur lui. Et si son caractère n'est pas développé entre-temps, vous allez le voir vivre dans la fausseté de vie. Alléluia. Vous allez les voir vivre une double vie dans l'église. Une double vie dans l'église. Alléluia. Alléluia. Tout simplement parce que le talent attire l'attention. Attire l'attention. Regardez David. David n'avait pas développé son caractère. Il n'est pas allé en guerre cette année-là. Ses soldats sont allés en guerre. Il est resté à l'arrière, il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Il a vu la femme de quelqu'un, il a convoité. Mais c'était un grand guerrier. C'était un excellent général de guerre. Mais le caractère n'y était pas encore. Alléluia. Le caractère n'y était pas encore. Regardez Samson. Dans le développement de son don, il n'a pas développé le caractère. Alors quand il est passé à la lumière, il ne pouvait plus rentrer en arrière. C'est quoi lorsque vous grandissez dans vos dons et dans votre caractère, tant que votre caractère n'est pas au-dessus de vos compétences, ne sortez pas. Ne sortez pas. Ne vous exposez pas. Vous allez mourir vite. Alléluia. 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 C'est très important. Voyez, quand le feu des projecteurs surpasse la sanctification, les leaders sont voués à la chute. Et ils en blesseront d'autres sur la route. Si nous développons des leaders suréquipés et sous-sanctifiés, nous sommes en train de blesser les leaders et ceux qu'ils dirigent. Alléluia. Et ceux qu'ils dirigent. Nous avons reçu un frère ici qui joue aux instruments. Il était costaud comme ça. J'ai oublié son nom. Il était costaud comme ça. Il jouait aux instruments et sa femme chantait ici. Vous vous souvenez, son nom était quoi? Antoine, son nom était quoi? Hein? Quentin, voilà, le frère Quentin. Et je l'ai reçu au bureau, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Il est en train d'ouvrir une école de formation pour les chanteurs, les instrumentistes. Et j'ai dit, ah, mais c'est bien. Mais qu'est-ce que ton école va être différente des autres? Pourquoi ton école va être différente? Il dit que, apôtre, nous avons découvert que beaucoup d'instrumentistes et de chanteurs, on doit leur prêcher de nouveau l'évangile. Parce qu'ils sont devenus des gombotistes. Ils cherchent maintenant l'argent plus qu'honorer Dieu. Écoutez ce que Pasteur Chris a dit récemment lors d'une de ses prédications. Il s'est levé contre tous ses enfants qui chantent aujourd'hui, qui sont devenus des superstars. Il a dit que non, ce n'est pas ça. Vous êtes appelés à honorer Dieu, pas à chercher de l'argent avec vos dons. Alléluia. Il a dit non. Si vous allez chercher l'argent, qui va conduire le peuple dans la présence de Dieu? Qui? C'est votre responsabilité. Vous êtes formé pour porter le peuple dans la présence de Dieu. Voilà votre récompense. Voilà votre récompense. Alléluia. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Ce n'est pas tous les chants qui vont sortir un album. Ce n'est pas tous les chants qui vont sortir un album. Non. Lorsque vous regardez comment David avait organisé le ministère de la louange, il y avait des chœurs, il y avait des gens qui logeaient, il y avait d'autres qui portaient seulement. C'était leur mission, c'était leur ministère. Et ils ne feront jamais d'album. Tout le monde ne pourra pas faire Sinach, mais d'autres vont interpréter Sinach toute leur vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois faire attention à ta vie de sanctification. Parce que ta vie de sanctification traite avec ton caractère. Traite avec ton caractère. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de chrétiens. À peine des dons commencent à se manifester dans leur vie. À peine des dons commencent à se manifester. Ils ne prennent plus attention à leur vie de sanctification. Ils ne prennent plus attention à leur vie de sanctification. Vous voyez? Parfois, quand on parle de sanctification, quelqu'un voit seulement l'aspect aller coucher avec quelqu'un. Non! Sa manière de parler, sa manière de penser, sa manière d'être, sa manière de faire, tout ça doit passer au crible de la sanctification. Est-ce que quelqu'un est là? Donne-moi un bon amen, je continue. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, tu allais commettre la fornication. Le fornicateur n'est pas différent du menteur. Le fornicateur n'est pas différent du jaloux, n'est pas différent de l'envieux. Le fornicateur n'est pas différent de l'orgueilleux. Alors tout ça nous interpelle à travailler sur nous-mêmes. À travailler sur nous-mêmes. Regardons cette histoire dans le livre d'Ézéchiel. Elle parle de Satan. En d'autres termes, alléluia. Regardons dans le livre de Ézéchiel chapitre 27. Ézéchiel chapitre 27. Est-ce que c'est ça? Alléluia. 28, regardons 28. Voilà, c'est 28. Alléluia. Il dit, fils de l'homme, dis au prince des Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Vous observez, c'est ce qu'on parle ici. Il parle de Satan. Il dit qu'il est Dieu. Allons au verset 13. Regardez, 12. Il dit, fils de l'homme, pronom complet sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Il était parfait. Alléluia. Au départ, Satan était parfait. C'est la Bible qui nous dit. Il dit, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Regardez les pierres précieuses qui étaient sur le diable. Regardez les pierres précieuses. Alléluia. Espèces de pierres précieuses. Des sardoines, des topas, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scabouques, des émeraudes, d'or, des tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé, tes tambourins. C'est pourquoi le diable ne fait pas d'efforts pour faire la musique. Les agents de Satan ne font pas beaucoup d'efforts pour faire la musique. Ils savent comment déclencher le rythme dans votre corps. Alléluia. Quand tu passes à côté d'une de leurs musiques, ton pied fait seulement ça seul. Seul, avant que tu... Hey, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Si on ne t'attrape pas, c'est les fesses qui vont aller avec. Alléluia. Hé, hey, ma soeur, hé, 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 c'est comment? Tu es déjà possédé? Alléluia. Et bien aimé. Troisième conséquence dangereuse si l'on développe uniquement les dons, bien aimé. Les dons, les talents, les aptitudes, les compétences, tout ce que vous voulez, bien aimé. Le talent l'emporte sur la disponibilité. Le talent l'emporte sur la disponibilité. Parfois, il y a des gens qui aiment utiliser cette phrase qui dit « Dieu est plus concerné par ma disponibilité que par mon talent. Dieu est plus intéressé par ma disponibilité que par mon talent. » Vous savez, le cœur de cette déclaration est de tout lui abandonner. De tout lui abandonner. D'être dépendant de lui. De se concentrer sur sa puissance et non sur la nôtre. De saisir que nous sommes un simple vase d'argile et que la puissance est dans le message, pas en nous. Alléluia. Alors, trop souligner les talents peut entraîner les leaders à penser que la puissance est dans leur talent et non dans le Seigneur. La puissance est dans leur talent que dans le Seigneur. Rappelez-vous. L'apôtre Paul dit que c'est dans sa faiblesse que la puissance de Dieu se glorifie. C'est lorsqu'il est faible que Dieu devient fort. Alors quand tu te sens fort, Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne peut pas se sentir faible. Alors il te quitte. Alors il te quitte. Et donc nous comprenons qu'une formation axée sur les compétences, sans prendre le cœur en considération, peut encourager les leaders à croire en eux-mêmes et non au Seigneur. Et non en Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu ne puis pas tout parce que tu es capable. Alléluia. Et la dernière conséquence pour cette première phase, conséquence dangereuse si l'on développe uniquement les talents, les aptitudes, les dons, les capacités, les compétences, c'est que le don éclipse le service. Le don éclipse. Le don empêche le service. Éclipse. Vous voyez? Tandis que la formation axée sur les compétences aide les leaders à connaître et à développer leurs forces, le danger est qu'ils veulent uniquement servir dans leur zone de confort. Alléluia. Ils veulent servir uniquement dans leur zone de confort. C'est sage de servir avec ses dons, mais ils ne doivent jamais éclipser la foi chrétienne, le christianisme, la relation avec Dieu. Alléluia. La réalité est que nous sommes serviteurs et aucun d'entre nous n'est au-dessus et au-dessus des autres ou au-dessus des tâches, quelles qu'elles soient. Sans concentration sur le Seigneur et sur son œuvre pour nous et en nous, les leaders développeront un dégoût envers tout ce qui est en dehors de leur don. Alléluia. Tout ce qui est en dehors de leur don. Tu lui dis, non, non, ce n'est pas dans mes compétences. Moi, Dieu m'a appelé à faire ça. Dieu m'a appelé à faire ça. Dieu m'a appelé seulement à laver le sol. Donc, on ne peut pas t'envoyer ranger les chaises. Alléluia. Dieu m'a appelé, par exemple, à chanter. Donc, tu ne peux rien faire d'autre dans l'église que chanter. Amen. Ça dit que tu ne peux pas faire l'intercession. Non, 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 c'est pas mon... Dieu m'a appelé dans l'intercession. Donc, tu ne peux pas aller chanter. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, et donc, en d'autres termes, on développera des leaders doués, mais égoïstes. Des leaders qui dirigent avec leurs dons et non avec un désir de servir. Et non avec un désir de servir. Alléluia. Et quand on développe un esprit, ce genre d'esprit, on n'est plus disponible pour la maison de Dieu. Alléluia. Alors, quels sont les dangers? Le premier danger qui menace un leader, nous l'avons dit un peu dans tout ce que nous avons dit tout à l'heure plus haut. Amen. Maintenant, nous allons aller point par point. Le premier danger, parce que ce que nous avons vu, ce n'était pas les dangers. Ce sont les quatre conséquences dangereuses si l'on développe uniquement les compétences. Amen. Les compétences. Maintenant, les dangers qui menacent un leader dans sa marche, premièrement, l'orgueil. L'orgueil. Alors, si nous regardons le dictionnaire Larousse, le dictionnaire Larousse définit l'orgueil comme le sentiment exagéré de sa propre valeur. Le sentiment exagéré de sa propre valeur. L'estime excessive de soi-même. L'estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Vous voyez? C'est cette impression que nous sommes meilleurs que les autres. Une forme de racisme qui se compare aux autres pour se mettre au-dessus d'eux. La mise en avant de ses qualités et des défauts des autres. C'est pourquoi il est très proche des prédicateurs. On peut avoir du mépris des autres. Le fait d'être proche d'un pasteur peut te conduire à mépriser les autres aussi. L'orgueil ne sait ni s'excuser, ni reconnaître ses erreurs. Jamais. Ça, c'est exclu. Alors, si certains ne se reconnaissent pas encore, alors venons-en à ce que Dieu en pense. Nous verrons que Dieu le voit encore plus. Si certains ne se reconnaissent pas, la première chose, nous verrons que Dieu le voit encore plus. Premièrement, l'orgueil est la source, vous devez le savoir, c'est la source de l'égarement. C'est la source de l'égarement. Chaque fois qu'un homme s'égare, le fond, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le fait de croire que tu as la science infuse sur les autres. Non, je connais là où je vais. Je connais ce que je fais. Alors, le moment où tu arrêtes d'écouter, tu tombes dans le piège de l'orgueil. Le moment où tu arrêtes d'écouter et d'humilier ton cœur, tu tombes dans le piège de l'orgueil. Appelez-vous, Abdias dit, dans Abdias chapitre 1, le verset 3, il dit, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. La Bible nous raconte l'histoire d'Ézéchias, qui fut atteint d'une maladie mortelle, dans 2 Chroniques chapitre 32, à partir du verset 24 au verset 25. La Bible dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Oh, son cœur s'éleva. Vous vous rappelez qu'Ézéchias a eu 15 ans de plus. Dieu a ajouté 15 ans de plus. Mais il est devenu orgueilleux parce que son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Vous voyez, Ézéchias avait bien commencé. Il avait prié et il a été exaucé. Cela devait être un homme béni, mais l'orgueil s'est glissé dans sa vie. Peu à peu, il a vu la source de son succès. Et il a commencé à dire, c'est grâce à moi que ceci s'est passé. Vous voyez, son cœur s'éleva. L'orgueil se glisse dans sa vie et son cœur n'a plus rendu grâce à Dieu comme il le devait. Et la Bible dit, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Vous voyez, l'orgueil opère à trois niveaux. Il se comprend de trois niveaux. Premièrement, il est la source de l'égarement. Deuxièmement, l'orgueil également, c'est prendre la place de Dieu et vouloir tout contrôler. Prendre la place de Dieu et vouloir tout contrôler. Vous voyez, c'est par orgueil que Satan a voulu prendre la place de Dieu. Il dit, je m'assierai sur son trône. Alléluia, nous venons de le lire. Nous venons de lire ce passage dans Ézéchiel 28, il dit, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Vous voyez, je suis Dieu. Vous voyez, c'est par orgueil que Satan a voulu prendre la place de Dieu. C'est l'orgueil qui a mené à la création de l'enfer. C'est par orgueil que la première tentation est venue. Vous serez comme Dieu. Quand Satan a dit à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Alléluia. Un autre exemple, Saül avait reçu l'ordre de ne rien faire avant la venue de Samuel. L'armée était prête et ils attendaient Samuel. Mais Saül a fixé un temps limité à Dieu et il voulait contrôler la situation. Et il va prendre l'initiative d'offrir le sacrifice par orgueil. Parce qu'il voulait s'élever au-dessus du peuple. Qui l'avait fait roi? Dieu. Alléluia. Et il voulait conserver sa place. Vous voyez, l'orgueil intervient lorsque nous voulons, par nos propres aptitudes, gouverner et diriger les autres. Chaque fois que tu ne reconnais pas Dieu dans ce que tu es en train de faire, tu deviens orgueilleux. Tu deviens orgueilleux. Alléluia. Et Dieu a horreur de l'orgueil. Alléluia. Une autre chose qui est très intéressante par rapport à l'orgueil, c'est que l'orgueil peut également se mixer sous la forme d'une fausse humilité. Alléluia. D'une fausse humilité. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être humbles, mais c'est de l'orgueil endormi. C'est comme une montagne, un volcan endormi, mais qui boue à l'intérieur. Alléluia. Qui boue à l'intérieur. Alors, c'est quoi la fausse humilité? La fausse humilité, c'est simplement mettre en avant les faiblesses, ses faiblesses, et de s'y cacher. Mettre en avant ses faiblesses et de s'y cacher. Moïse l'a vécu. Il ne se sentait pas prêt à partir délivrer le peuple. À plusieurs occasions, il va répondre à Dieu qu'il n'était pas capable. Alléluia. Je ne sais pas parler. Tel problème, il mettait en avant ses faiblesses et il s'y cachait. Regarde-moi, je suis faible. Vous allez voir des gens se présenter à vous et vous présenter ses faiblesses, ses difficultés. Vous allez partir sur la base de sa situation de faiblesse et croire qu'elle est faible et croire qu'elle est humble, alors que ce n'est qu'une humilité fausse, cachée. Et dès que vous résolvez sa situation, il lève la tête et il vous écrase. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est crasse. Bien-aimé. C'est bon de reconnaître nos défauts. Mais nous mettons le focus sur nous et nos capacités plutôt que de regarder à Dieu et de dire à Dieu que son choix n'est pas le bon. Voyez? Je ne suis pas la bonne personne. Prends quelqu'un d'autre, va dire Moïse. Prends quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la bonne personne. Alors, revoyons. refuser de dépendre de Dieu et d'attribuer les mérites que seul Dieu mérite, c'est de la fausse humilité. Et c'est pourquoi Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère contre Moïse tout simplement parce qu'il estimait que quelqu'un d'autre était plus méritant de ce qu'il devait faire, alors que Dieu était, lui donnait la capacité de combler ses faiblesses. Alléluia. J'appelle ma fille Nadège. J'ai dit, ok, Nadège. Non, reste assise. J'ai dit, Nadège, à partir de maintenant, je veux que tu fasses. Ah, papa, je ne peux pas. Papa, tu sais, moi vraiment, je n'aime pas les situations comme ça. C'est la fausse humilité. C'est la fausse humilité. Si je t'appelle, c'est parce que je vois en toi les compétents pour le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si tu trouves les excuses, non papa, je ne peux pas, pardon, appelle Mathé peut, vraiment, elle a les compétences, non. Tu oublies que c'est Dieu qui rend capable. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais, il y a des gens qui règlent leur compte. Amen. Non, si Dieu t'appelle, il est capable de te rendre compétent. Et Dieu ne choisit pas des gens compétents. Il n'a jamais choisi des personnes compétentes. Mais il a choisi des personnes disposées à écouter, disposées à obéir, pour qu'il les rende capables. Alléluia. Parmi les frères de David, David n'était pas le meilleur. Hein? Physiquement et en tout, David n'était pas le meilleur. Même Samuel a été trompé par les compétences des grands frères de Joseph, de David. Non, certainement c'est celui-ci. Certainement, Dieu dit, calme-toi. Ils étaient réellement compétents. Compétents. Sur le point de vue de la compétence, ils l'avaient. Mais comme on dit au quartier, ils n'avaient pas le cœur devant les situations. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations où tu n'as pas, ce n'est pas la force physique, c'est la force mentale. Alléluia. Il y a des situations où tu as, tout ce dont tu as besoin, c'est la force mentale. C'est pas la force, c'est pas les muscles. Les muscles sont faibles devant. Alléluia. Et c'est ça que je veux que nous comprenions aujourd'hui, bien-aimés. Proverbe 16, le verset 18, l'arrogant précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous voyez, Dieu s'est mis en colère et nous lirons qu'Ézéchias s'est alors humilié lui aussi en son temps. Alléluia. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe 18, le verset 12. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Deux Pierre 5, le verset 5. Alléluia. Mes bien-aimés, attention à l'orgueil. En tant que leader, l'orgueil est un serpent qui mord par derrière. Il ne vient jamais devant. Il vient toujours par l'arrière. Il mord par l'arrière. Vous savez pourquoi il mord par l'arrière? Vous savez pourquoi il mord par l'arrière? Si vous allez dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, vous allez voir les armes du chrétien. Vous allez réaliser que toutes les armes sont à l'avant, il n'y a rien à l'arrière. Alors, pourquoi il n'y a rien à l'arrière? Parce que Dieu est notre couverture. Alors, si Dieu n'est pas derrière, Satan va te rencontrer. Alléluia. Alléluia. Alors, quand l'orgueil vient par l'arrière, tu ne le vois pas. Tu constates seulement qu'il est en toi, il marche avec toi, et il vit avec toi, il se confond à toi. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimé, Dieu hait l'orgueil. Dieu hait l'orgueil. Proverbe chapitre 8, le verset 13. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, voilà ce que je hais. Voilà ce que je hais. Quand nos cœurs sont remplis d'orgueil, nous devenons aveugles à nos propres péchés et faiblesses. Nous nous fions à nous-mêmes et à nos capacités et oublions Dieu. L'orgueil est comme un poison qui contamine les aspects de notre vie. Alléluia. C'est pourquoi un leader doit faire attention à l'orgueil, doit faire attention à l'état de son cœur. Si tu n'es pas sensible à l'état de ton cœur, tu ne sauras pas à quel moment l'orgueil va entrer. Alléluia. Tu ne sauras pas à quel moment l'orgueil... Tu vas croire que c'est ton idée, c'est ta pensée. Tu vas croire que c'est ton idée, c'est ta pensée. Deuxième danger qui menace un leader, l'égoïsme. Vous voyez, c'est le frère jumeau. L'égoïsme. Paul dit dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 4. 2 Timothée 3, 1 à 4. Il dit, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Égoïste, une des qualités, une des qualifications de ces temps de la fin, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Alors, en regardant de plus près la définition du mot grec, philostos, d'égoïsme, nous pouvons voir qu'une personne égoïste fera tout ce qui est dans son pouvoir pour rendre les choses faciles et plaisantes pour elle-même. Alléluia. L'égoïste, c'est celui qui est tourné vers lui-même. Il est tourné vers lui-même, jamais vers les autres. D'abord lui, les autres après. D'abord lui, les autres après. L'égoïsme. Alors, es-tu une personne égoïste? Et si tu vas dire non. Alléluia. Es-tu une personne égoïste? Non. Alléluia. Matthieu chapitre 25, le verset 43. Matthieu 25, le verset 43. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Bien-aimé, vous voyez, un leader égoïste court après le gain. Un leader égoïste court après le gain. Nous avons le cas de Géasi. Alléluia. Géasi a couru dans 2 Rois chapitre 5. Il a couru après le gain. Il n'a pensé qu'à lui, il n'a pensé qu'à son ventre. Nous voyons Akan également, qui n'a pensé qu'à lui, qui n'a pensé qu'à sa famille. Et du coup, la destruction est entrée au milieu du peuple d'Israël. L'égoïsme. Il court après le gain. Et il est enflé d'ambition personnelle et capable d'écraser la carrière d'une autre personne pour obtenir une promotion. Alléluia. Il est prêt à écraser ses collègues. Il est prêt à calomnier ses collègues pour avoir la promotion. Ça, c'est l'égoïsme. Ça, c'est l'égoïsme. Il est prêt à briser la réputation d'une autre personne pour arriver à ses fins. Ça, c'est l'égoïsme. Ça, c'est l'égoïsme. Je me souviens un jour, je vous ai déjà raconté cette histoire. On travaillait tous au pied de notre papa, papa César. Et un jour, un frère m'a fait une pied de biche. Alléluia. Le pied de biche, c'est les peaux de banane. Il a mis une peau de banane. J'ai glissé jusqu'à taper ma tête à terre. Alléluia. Et quand je lui ai posé la question, pourquoi tu as fait ça? Il dit que tu ne sais pas qu'à côté de papa, on est en compétition. Alléluia. Un frère que j'avais accueilli. Non. En mon absence... Il a calomnié mon nom pour descendre mon image, ma place dans le cœur de papa César. Et vous allez voir des gens comme ça. Égoïstes, ne pensant qu'à eux. Étant prêts à être la seule personne qu'on estime. Et donc prêts à renverser les autres. Et à montrer chaque jour qu'il est plus compétent que tout le monde. Alléluia. Il est plus compétent. Attention. Ça, c'est l'égoïsme. L'égoïsme ne travaille jamais en équipe. Un égoïste ne travaille jamais en équipe. Et ne connaît pas travailler en équipe. Il trouvera toujours des défauts dans la vie des autres. Alléluia. Toujours. Ça, c'est un égoïste. Il ne connaît pas la vie de groupe, d'équipe. Il ne connaît pas. Alléluia. Vous Vous voyez, Proverbe 18, le verset 1. Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir. Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir. Bien-aimé. Troisième danger d'un leader. Troisième danger d'un leader, la jalousie. Alléluia. La jalousie. Genèse chapitre 30, le verset 1. Genèse 30, le verset 1. Écoutez ce que Rachel va dire. La Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Hein? Vous dites, hein? La jalousie. J'aime la Bible. Ça dit ce que les gens avaient dans le cœur. Alléluia. Ça dit. Par jalousie, elle va faire le chantage à son mari. Donne-moi les enfants ou je me suicide. C'était ce qu'elle voulait dire. Ou je me suicide. Alléluia. Alors, ma question est ce soir. La jalousie est-elle un défaut ou une qualité? Alléluia. Alors, pour répondre à cette question, il est important de nous pencher sur la définition. Amen. La définition que dit la définition d'un dictionnaire et aussi les notions bibliques. Alléluia. Parce qu'il y a deux types de jalousie. Il y a la jalousie de Dieu. Nous n'allons pas en parler ce soir. Maintenant, il y a la jalousie de l'homme. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible, le dictionnaire dit sur la jalousie? Le dictionnaire dit, la jalousie est un sentiment de dépit. De dépit. Quand on parle de dépit, on parle de désespoir. Amen. On parle de désespoir. Quelqu'un qui est là fatigué par sa situation. Il dit, un sentiment de dépit mêlé d'envie. Mêlé d'envie dû à ce qu'un autre obtient ou possède ce que l'on aurait voulu obtenir ou posséder. Hein? Je répète. Sentiment de dépit mêlé d'envie dû à ce qu'un autre obtient ou possède ce que l'on aurait voulu obtenir ou posséder. Alléluia. En d'autres termes, un jaloux se pose toujours la question, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours lui? Alléluia. Et ça continue. Le dictionnaire continue en disant, c'est une disposition ombrageuse, ombrageuse, ombre, alléluia, ombrageuse de celui qui voue un amour possessif. Ça, c'est la jalousie quand tu es dans le couple. Alléluia. Ça, c'est la jalousie dans le foyer. Je reprends. Disposition ombrageuse. Amen. De celui qui voue un amour possessif. Possessif. Et exclusif à quelqu'un. Et vit dans l'inquiétude et le soupçon permanent de son infidélité. La manière que tu es venu aujourd'hui, tu m'as trompé. Vous voyez? D'un amour possessif et exclusif qu'on a pour quelqu'un. Et cela entraîne que nous vivons dans l'inquiétude et le soupçon permanent de son infidélité. Un jour, un monsieur avait rendez-vous d'affaires avec quelqu'un qui avait vu son CV et la personne lui a donné rendez-vous dans un café. Et comme il n'avait pas averti sa femme, il voulait lui faire une surprise qu'enfin il a trouvé le boulot. Mais ce qu'il ignorait, c'est que sa femme le suivait. Alléluia. Et juste au moment où ils ont fini de discuter, et qu'il a fait la commande du repas et la dame était fière parce que l'interview était bien et elle lui a donné le document, il était sur le point de signer, la femme est entrée, elle a dit ah bon hein, elle a pris le document déchiré. Tu me trompes, j'étais enfin attrapé. attrapé la dame qu'il avait interviewée, claqué, enlevé son chapeau de mèche, jeté à terre. La dame avait la honte, a ramassé ses cheveux à terre et a fui. Le monsieur est calé. C'était comme un mauvais rêve, vous voyez. Il croyait qu'il rêvait. Il croyait qu'il rêvait. Juste au moment où il revient en lui, il réalise qu'il ne rêve pas. Il dit à sa femme, « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Elle dit, « ne détourne pas la conversation, j'étais attrapé. » Elle avait déchiré ça en 4 morceaux. Il a pris un morceau, il lui a dit, « Regarde, elle a vu en haut contrat. » Elle n'avait que ses larmes. Il a dit, « Aujourd'hui, tu pars du foyer. » Ennemi de mon progrès. Alléluia. Alléluia. Ombrageuse. Alors, d'après la définition de ces deux sens, on remarque ici une connotation négative. Il en est de même avec la Bible. Les Écritures ajoutent une connotation positive. Alléluia. Dans un sens négatif, la jalousie également se caractérise par de l'envie ou de la haine lorsqu'on voit quelqu'un jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou que l'on aimerait posséder exclusivement. Alléluia. Elle est aussi l'inquiétude qu'inspire la crainte de partager cet avantage ou de le perdre au profit d'autrui. Alléluia. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu as peut-être, toi-même tu sais que quand tu restes tout à soi, vous savez, la jalousie parfois naît d'une incapacité et d'un manque d'estime de soi-même. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais espéré avoir ce genre de boulot. Ou bien avoir ce type de mari. Ou bien avoir ce type de femme. Alléluia. Et du coup, dès qu'il a cette chose-là, il vit maintenant dans le stress de l'avoir. Il vit dans le stress permanent. Chaque jour, quand elle se lève, elle part vérifier si c'est toujours là. J'ai fait un mauvais rêve. C'est comme si on m'avait volé. Alléluia. Une telle personne va toujours voir des rêves où on vole. Alléluia. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Vous n'êtes plus là. Vous êtes là? D'accord. Je peux avancer. Et donc, c'est très compliqué. C'est pourquoi nous devons faire attention à l'état de notre cœur. Et là, un leader possessif, un leader jaloux, il va croire que, par exemple, le pasteur est sa propriété. Amen. Il va vouloir tout contrôler. Et au moment où certaines informations vont lui échapper, il va vivre dans l'inquiétude. C'est-à-dire, son poste est toujours en danger. Son poste est toujours en danger. Mais bien aimé. Et donc vous voyez que psychologiquement, la jalousie empêche l'homme de disposer de toutes ses facultés. De disposer de toutes ses facultés, produisant des tensions et des conflits considérables. Une personne jalouse va toujours être en conflit permanent. Conflit. Point rien. Ou n'importe quoi, ça va exagérer dans son cerveau. Bang, bim, 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 bim. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne la paix. Ce qui est à toi est à toi. Sois en paix. Amen. Ce qui est à nous est à nous. Soyons en paix et faisons confiance au Seigneur. pour veiller sur le reste. Alléluia. Maman va tous les jours au boulot. Elle travaille avec des grandes personnes. Donc chaque jour, je vais filer sa voiture, les amis. J'ai envie de mourir. Non, vous-même, entre nous. J'ai mourir. Même le docteur Amel ne pourra pas me sauver. Pour le soir, quand tu rentres, tu étais avec qui? Tu étais avec qui? Ah non, on est, je suis rentré un peu tard, on est allé manger avec les collègues. Hein? Quel collègue? Je connais tous tes amis. C'est lequel? Alléluia. Alléluia. C'est quoi un jour j'ai résolu la question avec maman? Vous savez comment j'ai résolu la question? Hein? J'ai résolu la question. Le jour où on priait, je lui ai dit ceci. Je te fais confiance. Je lui ai dit premièrement, j'aime d'abord Jésus avant toi. Amen. J'aime d'abord Jésus. Voilà, tu es deuxième choix. Premier choix, c'est Jésus, 100%. Elle m'a regardé comme ça. J'ai dit deuxième chose. Je t'aime. À cause de Jésus. Pas à cause de toi. Parce que si c'est à cause de toi, tu feras quelque chose qui va me déconnecter. À cause de Jésus, je te fais confiance. Jésus m'a dit, fais-lui confiance, je te fais confiance. J'ai foi en Jésus plus qu'en toi. Alors, si toi tu me dis, fais-moi confiance, je ne te fais pas confiance, parce que tu es un être humain. Mais si Jésus me dit, fais-lui confiance, je dis, ok Seigneur, je sais qu'il est capable de te rendre capable. Est-ce que quelqu'un me suit? Si nous allons dans ce sens, quand elle rentre, je dis, Seigneur, te fais confiance. Amen. Au début de notre relation, maman avait toute tendance, quand elle revenait, de me dire tout ce qu'elle avait fait toute la journée. J'ai dit, je ne vais pas vite mourir. Je ne fais pas les rapports comme ça. Non. Je te fais confiance à cause de Jésus. Donc, si on doit faire un rapport, ça doit être sur la base d'un commentaire dans la maison. Pas sur la base d'un rapport. Je ne suis pas ta police. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne mène pas les enquêtes sur toi. C'est Satan qui mène les enquêtes sur nous. Et son cœur s'est apaisé. Mon cœur s'est apaisé. Alors parfois on rigole un peu en se taquinant. Combien de blancs t'ont regardé aujourd'hui? Elle dit, mais ils ne peuvent même pas, hein? Eux-mêmes quand ils regardent sur le feu. Frère, elle me dit, est-ce que tu sais qu'un homme m'a poursuivi dans les rayons de Carrefour? Il dit, ah bon? Et je disais dans mon cœur qu'il ne sait pas que mon mari l'a déjà vu. Le tonnerre qui va tomber sur toi, hein? Je ne suis pas sûr que ta troisième génération va vivre. Alléluia. Mais des choses comme ça décantent une relation. On peut parler de tout et en rire. Alléluia. Parce qu'on fait confiance au Seigneur pour chacun de nous. Et quand on fait confiance au Seigneur, on laisse la marge pour que l'autre fasse ses preuves. Hello. Ça, c'est pour guérir de la jalousie. Alléluia. Parce que Jésus, Dieu lui-même, il est jaloux. Hein? Mais pourquoi il ne nous détruit pas? Hein? Il a amour. Hein? Ok. Alléluia. Alors, évoluons. Alors, dans un sens positif, La Bible parle de la jalousie de Dieu, pas comme la jalousie de l'homme. La Bible parle de la jalousie de Dieu dans le sens du zèle pour le bien que l'on trouve chez le Seigneur. Amen. Le zèle pour le bien. Quand la Bible dit que Dieu est jaloux d'un homme, c'est que il est zélé pour le bien qu'il a fait dans la vie de cet homme. Il est zélé pour le bien qu'il a fait dans la vie de cet homme. Toi, tu n'es même pas zélé, tu es jaloux dans la vie de quelqu'un, tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Exode 20, le verset 5. Alors, comme nous l'avons vu un peu plus haut tout à l'heure, bien-aimé, la jalousie peut donc consister à envier, à vouloir posséder ce que l'autre a. On peut envier quelqu'un par rapport à ses biens matériels, sa situation sociale, sa réussite, sa santé. Dans le jardin secret de son cœur, le leader peut même tomber dans le piège qui consiste à envier le mari ou la femme d'une autre personne. Un jour, j'étais fiancé encore avec maman et je suis allé le présenter à un collègue pasteur qui était un ami, entre guillemets. Amen. Et quand il a vu maman, il dit, ah, prophète, mais ta fiancée, elle est belle devant sa femme. Quand un homme dit qu'une autre femme est belle devant sa femme, oh, quelle humiliation. Il dit, Boda, ta femme est belle aussi. Il dit, pas comme ta part. Donc il bavait. Hey, vous dites, hey. Ah. Je suis en train de vous expliquer la jalousie. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, quelqu'un est envieux de ce que l'autre a. Ça arrive qu'un leader soit envieux de la femme de l'autre, de ce que l'autre a, du boulot que l'autre a, de la réussite que l'autre a, de la restauration que l'autre a. Alléluia. C'est pourquoi en tant que chrétien, on doit travailler notre cœur. La limite est mince comme ça, mince, mais bien, mais mince. Au moment où tu es jaloux, tu ne te rends même pas compte. Hein. Tu vas voir quelqu'un va s'élever, pas jalousie, va dire, même prière, c'est la jalousie. C'est pas même prière. Alléluia. C'est la jalousie. Même prière. Alléluia. Alors, si tu observes bien dans la phrase même prière, et si Dieu ouvre tes yeux, tu vas en profondeur, tu vas te rendre compte que c'est lié à la jalousie. Que laisse Dieu faire dans ma vie ce qu'il a fait dans ta vie deux fois plus. Je peux avancer? Alors, dans l'église, on peut jalouser un chrétien parce qu'il possède des qualités, des compétences spirituelles qu'on n'a pas ou qui ne s'expriment pas dans les mêmes proportions. Alléluia. Dans les mêmes proportions. Je vous ai parlé de mon collègue frère en Christ qui m'a posé des pots de bananes alors qu'on travaillait parce que, à son avis, j'avais des compétences plus importantes que lui. Moi, je n'en voyais pas. Parce que ce qui était à lui, vous voyez quelqu'un qui prophétise et qui voit les noms et les sources des problèmes des autres. Et l'autre, lui, prophétise seulement les anges. Qui est plus grand que l'autre? Entre les deux manières de prophétiser, tu préfères lequel? Tu vois les anges, tu vois Dieu, tu vois le ciel, et l'autre voit les problèmes des gens, il voit les noms, il voit là où l'argent déjà est caché, il voit des choses. Qu'est-ce que tu préfères? Je n'ai pas suivi. Pardon? Vous ne parlez pas. Ceux qui voient les problèmes, les noms, là où l'argent est caché, tout. Et toi, tu vois les anges. Bien aimé. Oh, vous voyez, vous êtes tous tombés. Acclamez pour vous-même. Écoutez. Alléluia. C'est le même esprit. Hein. Ça veut dire que celui qui voit les anges et qui voit Dieu est capable de voir les problèmes des gens. Et celui qui voit les problèmes des gens est capable de voir les anges. Si seulement il se laisse conduire dans la présence de Dieu, il n'y a aucune limite. Alléluia. Mais parce que l'autre s'est arrêté en chemin, il envie l'autre. L'un s'est arrêté en chemin, il envie l'autre. Vraiment, oh Seigneur, si elle pouvait voir les anges. Oh Dieu, si tu es fatigué de voir les problèmes des gens. Si tu es fatigué, tu t'arrêtes. L'autre à côté, hey, les anges, ça me sert à quoi? Vraiment, hein? Il veut voir aussi les problèmes des gens et que mon compte en banque augmente. Ah, vous voyez, vous êtes en train de regarder. Vos têtes secouent déjà. Regardez Jean. Lui, il a vu l'Apocalypse. Vous avez vu un endroit où il a dit les problèmes des gens. Regardez Élie, il a vu les problèmes des gens. Vous avez vu un endroit où il a vu la fin des temps. Mais qui était plus grand que qui? Le don est donné proportionnellement aux capacités. Amen. 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 Donc tu n'as pas envié X ou Y. Ta part est exceptionnelle. Le tien aussi... exceptionnel. La manière que Dieu travaille avec toi ne sera jamais comme Dieu utilise ta soeur ou ton frère. Jamais. Donc vous ne pouvez pas vous comparer. Il n'y a même pas d'élément de, il n'y a même pas d'élément pour vous permettre une comparaison. Il n'y en a pas. Parce que le don que vous avez reçu ne vient pas de la terre. Sur la terre, on peut trouver les éléments de comparaison. Mais ça vient du ciel. C'est un don. C'est un don excellent. Paul dit don est excellent. Toi, tu dis que ce n'est pas excellent. Toi, tu dis non, je veux voir que les problèmes des gens. Pour l'autre, ce n'est pas excellent. Je veux que la qualité où je vois les problèmes des gens, c'est plus excellent. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. Alléluia. On aimerait tant. Par exemple, avoir les capacités de la sœur un tel pour le chant ou les facilités du frère un tel pour le témoignage de l'évangile. On préférerait tellement avoir le physique de l'autre. Cela peut aller jusqu'à mépriser sa propre existence et préférer avoir celle d'une autre personne. Ah, moi, ma vie est mauvaise. Moi, si je pouvais être comme maman telle ou papa telle, vraiment ma vie serait meilleure. Vous voyez? Le drame. Et qu'il est malheureusement possible de passer toute sa vie à regarder à ce qu'on l'on n'a pas et à jalouser les autres qui possèdent ce qu'on souhaiterait. Sur ce terrain, on risque d'avoir du ressentiment à l'égard du Seigneur qui peut être qualifié d'injuste. Seigneur, tu es injuste. Pourquoi tu as donné telle chose à tel et à moi tu as donné ça? La Bible dit qu'il a donné 3 talents à X, 2 talents à Y, un à l'autre, après, selon les capacités que chacun pouvait porter. Alléluia. Dieu sait pourquoi il t'a donné 1. Il sait pourquoi il a donné 2 ici. Il sait pourquoi il a donné 3 là-bas. Maintenant, ton 1, tu as envie celui qui a 3. Mais tu ne sais pas. Alors, un matin, maman Sylvie est venue ici. Un soir, maman Sylvie est venue ici. Un jour, elle est venue ici, me voit et me dit, hey, papa, tu as prié pour moi l'autre jour, je suis rentré, je n'ai pas pu dormir. J'étais à terre. J'étais comme si j'avais bu, fumé en même temps, bu l'alcool, tout en même temps mélangé dans mon corps. Oh, le jour-là, Jésus sort comme ça. Pape, pape, va chez toi. Ah! Alléluia! Mais, regardez, j'ai juste pris un peu de l'huile sur ma tête et j'ai mis sur sa vie. Elle n'a pas pu dormir. Mais moi, je marche avec ça chaque jour et je dors.